tout de suite à 15h30 sur France Culture. Nous allons tout connaître de la pensée socratique. Voici La vie et l'œuvre de Socrate par Jean Dève.
Le début est intéressant de la plaidoirie de Socrate, hein, car les accusateurs lui font oublier qu'il est lui-même.
Alors ça, on peut dire que c'est un étonnement qui concerne tout homme accusé, et Camus l'a très bien décrit dans L'étranger. C'est que les gens parlent d'une personne dans laquelle l'accusé est incapable de se reconnaître, parce qu'évidemment c'est une image extrêmement réductrice, fondée sur des on-dit, des témoignages de gens malveillants. Ça ne correspond ni de près ni de loin au remous de l'âme de l'accusé. Et c'est très bien que Socrate souligne ça le premier, quand il dit « À moi personnellement, ils m'ont fait ou peu s'en faut oublier ce que je suis moi-même, parce que lui sait ce qu'il est, mais à l'évidence, ses accusateurs ne le savent pas. »
« Quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous, Athéniens, je l'ignore. Pour moi, en les écoutant, j'ai presque oublié qui je suis, tant leur discours était persuasif. »
Ils parlent d'un autre, ils ont besoin d'une caricature qu'il va falloir faire condamner, et toute leur rhétorique tend à cela, à dissocier dans l'esprit des juges le vrai Socrate de celui qu'ils vont faire condamner.
Et cependant, je puis l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. Mais ce qui m'a le plus étonné parmi tant de mensonges, c'est quand ils ont dit que vous deviez prendre garde de vous laisser tromper par moi, parce que je suis habile à parler.
Socrates.
Une vie.
Socrates.
Une œuvre. Socrate.
Socrates.
Jean Dève, Jean-Claude Loiseau.
Socrate condamné à mort, le verdict vient de tomber. Son procès s'était ouvert ce matin dans une atmosphère tendue. Convaincu d'athéisme, accusé de détournement de mineurs, Socrate a voulu présenter sa propre défense. Les jurés ont tranché. J'appelle au palais de justice d'Athènes notre envoyé spécial, Jean Dève.
Socrate vient d'être condamné à mort à une majorité relativement faible de 61 voix. Le tribunal était composé de 501 jurés, 281 d'entre eux ont déclaré Socrate coupable, 220 non coupable. Vous êtes l'un des 501 jurés, vous êtes à l'antenne, en direct, vous sortez du tribunal. Tout d'abord, je vais demander votre nom.
Roger Laporte.
Votre profession.
Professeur de philosophie.
Vous avez voté pour l'acquittement ou pour la culpabilité ?
J'ai voté pour la culpabilité.
Pourquoi ?
Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela, mais je tiens d'abord à faire remarquer, ce n'est pas moi qui le juge, c'est l'Assemblée. Et vous avez dit une assez faible majorité. Moi, je trouve que 61 voix, c'est assez important. Il aurait fallu un déplacement de 31 voix pour que Socrate soit acquitté. Nous autres Athéniens, nous avons inventé la démocratie, et la loi de la démocratie, c'est que la minorité accepte la loi de la majorité. C'est donc un procès démocratique, et non pas un procès dans un pays de tyrannie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voté pour la peine de mort de Socrate ? Il y a à cela plusieurs raisons. Je reprends l'accusation formulée contre Socrate par Médétos, qui est l'accusation d'athéisme. À vrai dire, au départ, l'accusation était plutôt d'accuser Socrate d'introduire des nouveaux dieux dans la cité, et donc d'en chasser ceux qui sont les nôtres. Je ne suis pas d'accord avec Médétos sur ce point-là, parce qu'il n'y a pas de nouveaux dieux introduits par Socrate, mais il y a plus grave. Il ne parle jamais des dieux. Et je crois qu'il faut avoir conscience de ceci, c'est que s'attaquer aux dieux de la cité, même indirectement, en ne rendant pas hommage à Athéna, eh bien, c'est tôt ou tard, provoquer l'effondrement de la cité. Et c'est de ce point de vue-là, de ce qu'on pourra appeler d'un néologisme la raison d'État, qu'il faut condamner Socrate à mort parce que c'est un exemple dangereux. Ceux qui le suivront risqueraient d'entraîner notre cité à la ruine. Parce que, je le répète, Athéna donne son nom à Athènes. S'attaquer à Athénas, même indirectement, se taisant à ce propos, c'est s'attaquer à Athènes. Telle est la raison fondamentale que j'ai tenu à vous dire tout de suite, de sauvegarde de la cité, qui est la raison principale pour laquelle, personnellement, je fais partie de ceux qui ont voté la mort de Socrate.
Voici l'accusation. Socrate est un homme injuste qui examine curieusement ce qui se passe au-dessus des airs et sur la terre et qui se plaît à rendre bonne une mauvaise cause. De plus, il enseigne aux autres la même chose. Voilà l'accusation, et c'est aussi à peu près ce que vous avez entendu dans la comédie d'Aristophane, où l'on introduit un personnage appelé Socrate, qui assure qu'il se promène dans les airs et autres puérilités semblables. Je n'ai pourtant jamais rien su de cela. Ce n'est pas que je fisse grand cas de celui qui en aurait la science et que je la désavoue de peur que Mélite ne m'en fasse un grand crime. Non, messieurs, je dis que je ne l'ai point cette science, précisément parce qu'elle me manque. Diderot, Apologie de Socrate.
Il y a là maintenant autre chose que je voudrais ajouter, qui est à mon avis une contradiction difficile de la pensée de Socrate. Il prétend ne rien savoir, mais il passe son temps à professer ce que l'on peut bien appeler une philosophie des valeurs. Quel est l'enseignement de Socrate ? Eh bien, c'est qu'il faut philosopher. Pour lui, c'est la même chose que pratiquer la vertu. Et qu'en conséquence, il faut négliger les richesses, les honneurs, le pouvoir politique. Et au moins si... Je me souviens bien, trois fois dans son discours, il s'est vanté de sa pauvreté, disant, alors c'est vrai qu'il était un homme désintéressé, que ce n'est pas quelqu'un qui ferait payer des leçons de philosophie, mais enfin, il n'empêche qu'il y a une contradiction entre dire « je ne sais rien, je sais que je ne sais rien » et avoir toute une philosophie des valeurs où l'on méprise ceux, eh bien... qui aime l'argent, qui aime le pouvoir, qui aime les honneurs, et puis se mettre au-dessus d'eux. Alors, il veut nous enseigner la vertu, c'est-à-dire une attitude complètement désincarnée, où ce qui compte, ça serait simplement je ne sais quel autre monde. Eh bien, nous autres Athéniens, ce qui fait la force de notre cité, c'est le commerce, c'est que nous construisons des navires, c'est que... nous avons des comptoirs tout le long du bassin de la Méditerranée. Et je crois que si tous les hommes faisaient comme Socrate, c'est-à-dire mépriser les richesses, mépriser les honneurs, mépriser le pouvoir politique, alors que nous autres Grecs, nous nous occupons des affaires de la cité, mais notre cité irait à volo, bientôt complètement dépérirait. S'imagine-t-on tout le monde comme cela cultivant la pauvreté, méprisant les honneurs, méprisant la vie politique, mais ce ne serait plus une vie possible. Et donc, n'oublions pas du reste que ce Parthénon, c'est certes là où on rend le culte à notre déesse Athéna, mais c'est aussi la banque de notre cité. Tout cela montre bien, du reste, que si Athéna admet dans les flancs du Parthénon qu'il y ait ce que l'on peut appeler une banque, c'est que désirer gagner de l'argent, désirer être connu, que l'humanité entière, par la suite, garde mémoire de notre civilisation, eh bien, c'est cela qui est important. Et quelqu'un comme Socrate, qui nous détourne des biens matériels, eh bien, personnellement, j'ai considéré que c'était un homme dangereux. Yeah.
la délation qui préside au procès de Socrate.
Socrate menait une vie publique. Et toute la vie de Socrate a été connue, et même il en a rajouté, de façon à ce que ce soit connu dans le moindre détail.
Jacques Mazel.
Une certaine fréquentation des milieux qui faisaient autorité, puisqu'il s'agit de l'entourage de Périclès, ont fait que jusqu'au plus haut niveau de l'État athénien, de la cité, on connaissait au fond le physique, mais aussi le caractère saugrenu, insolite, étrange de cet homme, et le risque auquel il s'exposait. Mais vous savez, des bouffons, les rois en ont besoin dans la mesure où ils savent les tenir à distance. Or, peu à peu, ils savaient que Socrate ne le tiendrait pas à distance. Ils savaient que Socrate allait persister et s'infiltrer, de façon à contrer le doute qui lui-même s'infiltrait de par ailleurs. Donc, Socrate n'a pas eu besoin de la moindre délation pour être assigné à dissidence, pour être assigné. Là, il nous faudrait faire un petit raccourci.
C'était un digne spectacle encore, sachez-le, messieurs, que celui de Socrate, le jour où notre armée en déroute refluait de Délion. Le hasard me mit près de lui. Mon cheval me portait, lui portait ses armes. Il suivait donc le flot au milieu de la complète débandade de nos hommes, de compagnie avec la caisse. C'est là que je les rencontre et dès que je les vois, je leur enjoins d'avoir du courage et leur dis que je ne les abandonnerai pas. Là, j'ai eu de Socrate un spectacle encore plus beau qu'Apodité. Car moi, j'avais moins à craindre du fait que j'étais à cheval. D'abord, combien son sang-froid était supérieur à celui de la caisse. Ensuite, il me semblait, pour citer ton vers, Aristophane, qu'il marchait là-bas comme à Athènes, se rengorgeant et les yeux en coulisses, avec de paisibles regards de côté vers les amis comme vers les ennemis. Et il était visible à chacun, même de très loin, que si l'on se frottait à ce gaillard, il saurait se défendre avec une belle vigueur. C'est pourquoi aussi il se retirait en toute sécurité, lui et son compagnon. Pratiquement, à la guerre, on ne se frotte pas à des hommes pareils. Ce sont les fuyards paniqués qu'on pourchasse.
Socrate, donc, s'était engagé à la guerre, et s'était engagé, non pas en politique, mais ses devoirs citoyens l'avaient amené à avoir une position tout à fait forte dans un procès qui s'appelle le procès des Arginus. C'est-à-dire qu'il y avait des généraux qui étaient allés, pour une fois, gagner une bataille maritime, mais la tempête et puis bon, une certaine précipitation avait fait qu'ils avaient dû rentrer rapidement à Athènes. Et en rentrant à Athènes, ils n'avaient pas eu le soin, ni le souci, ni surtout peut-être le temps, de récupérer les morts. Et alors qu'ils attendaient à ce qu'on les fête en triomphe, en rentrant à Athènes, et bien au contraire, par différentes manipulations démagogiques, très au point déjà à l'époque, eh bien la foule, la masse, les a invectivés, leur reprochant de ne pas avoir enterré les morts, de ne pas les avoir ramenés pour les enterrer. Et a donc voulu improviser un procès, précipité, en tout cas en infraction avec la règle rigoureuse, la forme. Et Socrate, qui se trouvait être partie prenante dans ce tribunal, qui avait donc son mot à dire, a dit non, la foule s'excite, la foule précipite, respectons la règle. Il était le seul à dire ça. Et la foule, qui bien sûr, par démagogie interposée, dit mais c'est nous finalement le pouvoir, c'est nous l'assemblée, directement ou indirectement, c'est nos représentants. Donc finalement, si on enfreint tel ou tel règlement, on peut quand même le comprendre, parce que nous, si vous voulez, on vote la loi qui fait qu'on modifie le règlement. La foule s'insurge. Et Socrate fait front et dit pas ça ou pas moi. Bon, et puis 2 ans après, il se passe autre chose, c'est-à-dire que le pouvoir, par déliquescences successives, se trouve entre les mains de tyrans. Mais les tyrans, à l'époque, ce n'était pas un dictateur, c'était des dictateurs associés pour des entreprises qui ne faudrait surtout pas par anachronisme comparer aux situations politiques actuelles. Enfin, les tyrans somment Socrate d'aller récupérer. Parmi ces tyrans, il y a 2 anciens disciples de Socrate, dont Critias. Socrate, tu vas aller récupérer Léon de Salamine, tu vas le ramener pour qu'on le juge. Socrate dit, de quel droit ? Du droit que c'est nous qui te le commandons. Pas ça ou pas moi, encore une fois. Et Socrate a dû au fait que ces tyrans ont été renversés très rapidement, et a dû à ce changement de régime politique le fait de ne pas avoir été tué, parce qu'il n'y aurait pas eu la moindre forme de procès. Bon, mais enfin, quand même, à force de dire pas ça ou pas moi, la démocratie trouve que on ne la comprend pas, et que ce citoyen, de fait, mérite une leçon. Alors, vous me parliez de délation. Mais il faut voir que l'assemblée politique et l'assemblée judiciaire, le politique et le judiciaire à Athènes étaient confondus. C'est-à-dire que des assemblées se comportaient et se confortaient en rôle de tribunaux. Et les tribunaux se mettaient à parler d'autre chose que seulement de la chose qu'il fallait juger. Et d'autre part, il n'y avait pas de ministère public. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun procureur, en quelque sorte, qui, pour représenter l'État, pour défendre l'État, aurait pris l'initiative de dire à Socrate, tais-toi ou attention, tu te mets dans l'illégalité. Encore que le terme illégalité soit d'une relativité très grande dans ce domaine. Surtout si en plus on préjuge déjà de la condamnation pour hérésie, manque d'orthodoxie. Comment voulez-vous être hérétique en matière de religion, il n'y a pas de dogme. Donc, aucun procureur ne pouvait prendre l'initiative. Donc, eh bien, il y avait ces fameux délateurs dont on a parlé, ces sycophantes. C'était un métier, parce que ça rapportait des sous. Ils entretenaient, d'ailleurs. La vogue et la manie de plaider des Athéniens étaient encouragées par le fait que l'on rémunérait ces sycophantes. Et puis que finalement, depuis Périclès, non seulement quand on accusait, on touchait quelque chose, mais que quand on jugeait, quand on était juge au tribunal, eh bien on touchait le bol, puis le triobol, etc. C'est-à-dire que finalement tous les citoyens, dans une situation économique détestable, retrouvaient par leur qualité de citoyen le droit de juger, et donc de toucher, de passer à la caisse. Et le fait de passer à la caisse, eh bien, ça encourageait vraiment les tribunaux. Et les tribunaux siégeaient avec grand plaisir, quitte à trouver des causes qui parfois ne seraient pas venues d'elles-mêmes, mais parce que ça entretenait en quelque sorte les bons comptes, faisait les bons amis. Et donc, par défaut de ministère public, il se trouve trois, non pas délateurs, parce que tout à l'heure on parlera des trois accusateurs de Socrate officiels, ce n'étaient pas de purs délateurs. Mais il a fallu intermédiaires de citoyens pour porter sur la place publique les griefs faits à Socrate. Et alors, bien, un beau jour 399 avant Jésus-Christ, un beau matin, eh bien, tous ces jurés, tous ces juges qui touchaient pour venir au tribunal, écouter, ben, ils descendent de leur petite maison et puis ils vont sur la place. Et là, à l'heure du jour, il y a le procès de Socrate.
De Socrate, toujours en ligne devant le palais de justice d'Athènes, Jean d'Ève, en compagnie de l'un des 500 injurés.
Roger Laporte, vous êtes toujours à l'antenne, en direct. Vous venez de condamner, de voter pour la mort de Socrate, et j'aimerais que vous nous disiez comment vous est apparu tout au long de son procès Socrate.
Il était très sûr de lui, très sûr de son bon droit. Vous savez qu'il employait le moyen suivant pour nous convaincre qu'il n'était pas athée et que, somme toute, notre procès était sans fondement. Il a fait appel à ce qu'il appelle son daimon, son démon. Et par une véritable provocation, à la fin de son procès, Socrate nous a dit « Mais depuis que je vous parle, pas une fois mon daimon n'est intervenu pour m'ordonner de me taire. C'est donc bien la preuve que mon discours est un discours juste et que, somme toute, j'ai les dieux pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce daimon ? Il ne nous en a pas dit grand-chose. Il nous a dit que c'était une voix qui lui parlait depuis son enfance. Mais nous ne voyons pas bien le rapport entre ce daimon et le culte que nous nous rendons à Athéna. Donc il nous a paru très sûr de lui. Il a essayé de retourner cette accusation d'athéisme en nous montrant que, au fond, nul n'était plus accordé au divin que lui. Et je ne conteste pas, en quelque sorte, la bonne foi de Socrate. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui ne serait que le Dieu d'un seul individu ? Donc, il nous a paru très sûr de lui. Et il a voulu cultiver, permettez-moi cette expression, son image de marque. Nous lui avons proposé de se tenir tranquille. Parce qu'enfin, il faut bien dire que ce qui m'a fait hésiter à prononcer la peine de mort contre Socrate, c'est que c'est un homme âgé. Il a 70 ans et ça fait bien longtemps qu'il est parmi nous. Alors pourquoi est-ce que maintenant, sur le tard, nous deviendrions plus sévères ? Alors nous lui avons proposé, bien disons, de se tenir tranquille, de mettre une sourdine à ses leçons. Mais non seulement il a refusé notre proposition, mais il a fait une... Là aussi, il nous a répondu avec la dernière insolence, de telle sorte que... On peut évidemment admirer quelqu'un qui ne flatte pas ses juges, qui ne fait pas de la démagogie, mais en même temps, il faut être bien orgueilleux pour avoir la conduite de Socrate. Figurez-vous qu'il nous a demandé, comme punition, d'être nourri jusqu'à la fin de ses jours au Prytané. Et, somme toute, plutôt que de mourir de vieillesse, ce qui n'aurait pas manqué d'arriver d'ici quelques années, eh bien, cette condamnation à mort de Socrate, peut-être que nous avons eu l'imprudence d'en faire un martyr. Mais j'espère bien qu'en dépit de cette palme du martyr qu'imprudemment, peut-être nous lui donnons, certains, ça sera sans doute difficile, parce que beaucoup de siècles passeront, mais devront faire l'effort de se mettre à notre place et de comprendre nos raisons.
Τα δε λέγεις πότατα, τον πέλας πάντε θω.
Είναμε ειφομόνους, επιχειρείντε ως αληθώς πολιτικέ τέχνε, καί πρατείντα πολιτικά μόνος τον νουν. Άτε ον ο προσχάριν λέγον τους λόγους ως λέγω εκάστοτε, αλλά προς το μπέλτιστο, ου προς το έντιστο, καί ουκ εθελόν ποιείν ασού παρενείς. Τα κομψά τάουτα, αούχ εξώ ότι λέγω εν το δικαστήριο. Ο αυτός δε μόι εκεί λόγος όμπερ προς πολλών έλεγον. Κρινούμαι γαρ ως εν παιδιαίος γιατρός, αν κρινοητό κατεγορώντος οψοποιούς. Σκοπέι γαρ, τι αν απολογόητο ότι ούτως άνθρωπος εν του όησι λεύθεις, ει αυτού κατηγορέει της λέγον ότι, ο παΐδας, πολλά ουμάς, καί κακά όδε εργάστα ανέρ, καί αυτούς, καί τους νεοτάτους ουμών διαφθερεί, τέμνονται καί καόν, καί ισναϊνόν.
Je suis resté où ils m'ont ordonné de rester. J'ai fait mon devoir sans que la crainte de la mort m'en ait empêché. Et à présent que Dieu m'avait placé dans un poste et qu'il m'avait ordonné d'y demeurer, je veux dire celui de vivre en philosophe et de scruter les autres et moi-même, la crainte de la mort ou de quelque autre chose m'y ferait renoncer ? Non, Mélite, ce serait là une faute grave. Je mériterais alors que l'on me traduisît en justice comme un homme qui n'admet point de Dieu, qui méprise les oracles, qui craint la mort et qui s'estime sage, n'étant rien moins. Car craindre la mort, ô Athéniens, c'est n'être point ce que l'on se donne, si l'on se donne pour sage.
Diderot, enfermé à Vincennes, traduit de mémoire l'apologie de Socrate, de Platon. Et vous écrivez, Roger Lavinter, que Diderot va s'ingénier à actualiser la figure de Socrate.
Tout d'abord, il voudra incarner, incorporer Socrate matériellement, être la réincarnation de Socrate au XVIIIe siècle. Et pour cela, donc, il s'ingéniera pour être Socrate ou pour être le philosophe à ne pas être lui-même, à jouer un rôle en fonction d'une réalité à transformer. Donc, c'est la vérité, ce sont des critères moraux qui justifieront une activité de double jeu et même un retrait de la parole. Et aussi, ce qui est très important, c'est que, bon, il a été donc enfermé à Vincennes à cause de la lettre sur les aveugles, donc pour une œuvre philosophique, pour un certain énoncé qui paraissait inacceptable au pouvoir. Il est mis en prison. Il est donc la victime de ce pouvoir et il devient très vite un peu le martyr, c'est-à-dire même s'il échappe absolument au sort de Socrate. Par exemple, bon, la différence entre Socrate et Diderot est toute la complexité du rapport. C'est une persécution très vite neutralisée. Diderot fait amende honorable, c'est-à-dire il ne se désavoue pas, seulement il s'engage à ne plus rien publier qui soit contre les bonnes mœurs ou contre la volonté, disons, du pouvoir. Donc, il évite le martyr. Et à ce moment-là, il peut s'identifier à Socrate, qui est devenu Socrate à cause de son martyr. Et c'est ce double jeu et cette ambiguïté qui peut-être fascinera aussi Diderot. Alors, dans un premier temps, il s'efforcera d'être Socrate en recréant autour de lui une configuration anecdotique, personnelle, qui évoque celle de Socrate. Ainsi, sa femme, Antoinette Champion, devient, ou il s'efforcera de faire d'elle, Xantippe, c'est-à-dire une mégère inapprivoisée qui chasse le pauvre philosophe dans le monde, où il rencontre Diotime, Sophie Volant, un personnage dont on ne sait rien de précis et qu'on ne connaît qu'à travers la représentation mythique qu'en donne Diderot dans ses lettres à Sophie Volant. Et également, il s'efforcera de créer ou recréer quelqu'un qui soit Alcibiade, c'est-à-dire qui soit à l'aise dans le monde et qui s'en joue, et ce sera Grimm. Et en même temps, toute cette activité théâtrale et existentielle fera qu'il rompra avec celui qui représente Socrate peut-être plus rigoureusement, à savoir Rousseau. Et c'est intéressant puisque Diderot prendra le surnom de philosophe, ou tout le monde lui donnera le surnom de philosophe, Voltaire en particulier, qui peut-être a été le premier à le baptiser, tandis que Rousseau deviendra le citoyen. Et philosophe et citoyen s'opposeront, aussi bien par leurs écrits que par leurs tactiques existentielles.
Hoyosde, ut aussi gegoneten atopian anthropos, kaiotos, kaioilogoiotu, udengus anehoitis zeton, ut eton nun, ut eton palaion, eimeaha, eois ego lego apeikaidzoi tisoton, anthropon men medeni, tois de silenois, kai saturois, oton, kaitus logus.
Monique Dixot.
En faisant le portrait et l'éloge de Socrate, Alcibiade, amoureux de Socrate, qui vient de faire éruption au milieu du banquet, en étant complètement ivre et accompagné d'ivrognes qui vont recouvrir justement de leur bruit la discussion philosophique qui précédait, Alcibiade va faire de Socrate un portrait qui accentue l'atopie de Socrate. L'atopie, c'est-à-dire le fait que Socrate ne ressemble à personne, ni à ceux des hommes d'aujourd'hui, ut eton nun, ni même à des hommes passés, ut eton palaion. Socrate diffère en quelque chose. Il est différent de tout homme au point qu'on ne peut le comparer qu'à des satyres ou à des Silènes, c'est-à-dire à des demi-dieux. Et ce n'est pas seulement Socrate dont Alcibiade fait l'éloge, c'est de ses logoi, de ses discours, de ce qu'il dit. Et en cela, va dire la suite du texte, réside véritablement la divinité de Socrate. Kai gaun, kai tuto entois prostois parilipon, houti, kai oi logoi otu, homoiota toi aisin, toi silenois, tois dioi gomenois.
Ce qui caractérise, si l'on peut être, Socrate, c'est que c'est un personnage énigmatique, absent, qui échappe. On ne connaît Socrate que par Platon, ou bien par des caricatures, par Aristophane, par les nuées, mais on n'a pas vraiment Socrate au premier degré. Et Diderot, et c'est en cela peut-être qu'il est réellement la réincarnation au XVIIIe siècle de Socrate, également sera absent grâce à Vincennes, grâce à l'engagement pris de ne rien publier qui soit contraire à l'ordre établi. Il deviendra aussi énigmatique que Socrate, puisque, bon, il s'engage résolument avec d'Alembert dans l'entreprise encyclopédique, qui est une entreprise publique, politique, mais qui n'a rien à voir avec sa vie secrète, avec sa vie de philosophe réel ou d'écrivain ou de poète. L'essentiel de l'œuvre de Diderot restera non publié, sera découvert après sa mort au gré de publications posthumes, très aléatoires, puisqu'elles dépendront à chaque fois de l'idée, de l'image qu'auront de Diderot les éditeurs. Ainsi, l'exécuteur testamentaire de Diderot, Néjon, a voulu que l'œuvre publiée de Diderot coïncide avec le personnage du philosophe militant des Lumières, de l'encyclopédiste. Alors, il a opéré un certain choix dans l'œuvre de Diderot. C'est comme si Platon avait éliminé du discours de Socrate toute une série d'arguments qui s'opposeraient à son idée, à lui.
Vous pensez qu'il il s'est servi de l'apologie de Socrate comme d'un manifeste ?
Non.
Comme d'une mise au point ?
Non, puisque cette apologie n'a pas été publiée. C'est pour occuper ses loisirs à Vincennes, en prison donc, qu'il a traduit, prétend-il de mémoire, cette apologie dans un moment de crise et aussi de faiblesse, parce que Diderot à Vincennes s'est affolé, n'a justement pas fait preuve de la fermeté d'âme de Socrate devant ses accusateurs. Donc c'est au moment où Diderot doit constater qu'il n'a pas en lui la force d'âme de Socrate que pour se rassurer, ou je ne sais pas, pour exorciser quelque chose, il traduit l'apologie de Socrate. C'est comme si Socrate, pour échapper à la condamnation à mort, ou s'était, disons, désavoué, ou plus exactement, avait accepté de s'exiler, ce qu'on lui suggérait de faire, s'il avait dit « d'accord, je quitte Athènes pour aller à Thèbes », par exemple. Et c'est à ce moment-là que Diderot traduit l'apologie de Socrate qui ne sera jamais publiée. Donc c'est à usage interne, c'est réellement pour son roman intérieur ou personnel qu'il fait cela.
Que fais-je en effet ? Je suis sans cesse occupé de démontrer aux jeunes et aux vieux que le soin de l'âme doit passer avant celui des besoins du corps, avant les richesses et toute autre chose, que l'important est de se rendre bon, que l'on n'obtient point de la vertu avec des richesses, mais qu'avec de la vertu, on parvient aux richesses, à tous les autres biens, aux honneurs publics et privés. Si ces maximes corrompent la jeunesse, il faut qu'elles soient pernicieuses. Et si quelqu'un avance que j'en enseigne d'autres, il vaudrait autant qu'il se tue. Je vous annonce donc, ô Athéniens, soit que vous croyiez à Anit ou non, soit que je sois absous ou condamné, que je ne ferai jamais autre chose, aurais-je plusieurs vies à perdre. Athéniens, que cela ne vous émeuve pas. Faites-moi la grâce de m'écouter avec cette indulgence que je vous ai demandée en commençant. Il ne vous sera peut-être pas tout à fait inutile d'entendre ce qui me reste à dire. Mais comme il pourrait y avoir des choses capables d'exciter des rumeurs et du tumulte, je vous prie de m'accorder du silence. Diderot, Apologie de Socrate.
Ensuite, disons, le résultat le plus clair, le plus manifeste de cette traduction, c'est réellement la structuration de l'œuvre de Diderot, qui choisira après la forme du dialogue, c'est-à-dire les œuvres de Diderot, que ce soit maintenant les dialogues philosophiques ou le roman, comme Jacques le Fataliste, se présentent comme des dialogues philosophiques. Et Diderot est peut-être un des seuls philosophes à avoir su créer un dialogue philosophique qui ne soit pas artificiel, qui est une force dramatique réelle, parce que les points de vue sont également justifiés, sont également possibles, et qu'il y a permutation constante entre les rôles. Celui qui a raison a tort, et ensuite celui qui a tort a raison, et tout est une question de point de vue. Et en cela, il devient un peu le malin génie. C'est-à-dire, pour comprendre, pour pénétrer dans un dialogue de Diderot, et même pour comprendre son théâtre bourgeois, le fils naturel, le père de famille, il faut représenter en soi, faire parler ou entendre en soi le démon socratique, à savoir quelque chose qui procède par inspiration, qui donne un certain vertige et qui emmène dans l'inconnu. Donc, le rôle de l'énigme, la destruction, disons, des certitudes, et le rôle de la transe. Par exemple, le dialogue philosophique le plus connu ou le plus fort, le rêve de D'Alembert, procède par transe, par obnubilation. L'auteur est là au départ, Diderot converse avec D'Alembert, lui suggère certaines idées que D'Alembert ne prend pas au sérieux. D'Alembert dit « Je suis fatigué, je vais dormir ». Diderot lui dit « Bien, songez-y, et si ces idées n'acquièrent pas consistance pour vous pendant votre sommeil, tant pis pour vous ». Diderot disparaît et D'Alembert se met à rêver selon l'inspiration de Diderot. Et son rêve inspire à son tour Julie qui l'écoute. Et ensuite Julie rapporte le rêve à Bordeaux qui est le sage. Et il y a donc toute une répercussion d'une parole poétique absente qui se joue, qui représente effectivement l'absence socratique. Le véritable inspirateur n'est plus là, et c'est ce qui permet aux personnes présentes de comprendre quelque chose pour retrouver l'inspirateur.
Donc c'était tête 210 BD. Et Antoinun. Alon metatota en cumo ne picaires gignestae, otea etete, ean te gigne, beltionun e se pleres, diaten nun exetasin, ean te kenos es, eton e se barus tois sunusi, cae hemeroteros sophronos, ucoiomenos eidenae ameoista. Dans ce dialogue, donc, qu'est le théétète, tout entier consacré au savoir, et c'est un dialogue de la fin de la vie de Platon, la figure de Socrate revient. Et c'est le premier dialogue de Platon, et Socrate est mort déjà depuis très très longtemps à ce moment-là, où le terme maïeutique est employé. C'est le premier, c'est le seul. Tout se passant comme si, à la fin de sa vie, lorsque Platon réfléchit justement sur ce que c'est que savoir, il est obligé d'en revenir à Socrate et à la maïeutique, c'est-à-dire obligé de réaccentuer que malgré tout ce qui a pu être dit jusque-là, le dernier mot est encore que savoir, c'est d'abord savoir qu'on ne sait pas. Mais savoir qu'on ne sait pas, ça produit des effets. Et c'est de ces effets dont il est question dans ce texte. Puisque Socrate dit à Théétète que, ou bien il continuera à engendrer, à accoucher d'autres pensées, et en ce sens, le fait d'être passé par l'examen de Socrate, par la technique maïeutique, fera que ses pensées auront plus de valeur. Mais il se peut, tout aussi bien, que Théétète reste vide, c'est-à-dire n'ait plus rien à dire, ou ne dise plus jamais rien. C'est ce qui se passera, puisque ensuite il fera des mathématiques. Bon, il dira plus jamais rien, philosophiquement. Mais il y aura cependant un effet de la maïeutique, et cet effet, c'est que il sera plus léger pour ceux qui l'entourent. Et qu'est-ce que c'est que cette légèreté ? Mais ça consiste essentiellement à ne pas croire savoir, c'est-à-dire à ne pas littéralement, au sens socratique du terme, avoir d'opinion, parce que l'opinion est tyrannique, de telle sorte que la légèreté de Théétète, sa douceur, c'est aussi l'élément même, la forme même de la liberté.
Γυναίκας να ευσέφαει καήτω τας ψυχάς αυτών δικτωούσα επισκοπεΐν αλλά με τα σώματα. Μέγιστον δε το ούτ ένι ετί εμέτερα τέχνη βασινιζεΐν δυνατόν είναι πάντη τρόφο φότερον εϊδόλος καή ψευδός από τίκτατη του νέου η διάνοια εγγόνιμόντε καή αληθές. Επί τότε και καί εμόι υπάρχει όπερτα ισμαϊαί αγώνους εϊμή σοφίας καί όπερ έδε πολλοί μόι ονείδησαν ως το ους μεν άλλους ερωτώ.
On pouvait reprocher à Socrate de ne pas croire comme les autres, mais ça veut dire d'abord que croyait la cité.
Jacques Mazel.
Elle ne croyait en rien, elle suivait des rites. Elle n'avait même pas d'orthodoxie. Il n'y avait pas de religion par rapport à laquelle on aurait pu être dissident, éventuellement. En revanche, la vie, la cité, était infusée de partout de religion, à la naissance, à tous les repas, au moment de partir à la guerre, en revenant de la guerre, pour un mariage. On offrait un sacrifice avant un banquet. Et il y avait toujours un dieu plus ou moins opportuniste ou plus ou moins opportun pour pouvoir bénéficier du sacrifice de tel ou tel citoyen. Dans cette ambiance-là, vue de l'extérieur, absolument religieuse, et quand je dis absolument, je devrais dire totalitairement religieuse, Socrate remet en question certaines pratiques, demande aux citoyens de s'interroger sur ces pratiques. Et on peut l'accuser d'azébéia. Azébéia, c'est impiété. Et c'est le biais détourné. Puisque la vie de la cité est imbibée de religion, puisqu'on n'a pas le droit de l'accuser de nuire à la cité, on va l'accuser de nuire à la religion, indirectement, il nuit à la cité. Et de ce fait, on a un grief, un chef d'accusation qui tient debout. L'autre grief concernant Socrate est de corrompre la jeunesse. Corrompre est déjà un sens moral. La corruption, on pense à une espèce de vénalité. Il achète la jeunesse, il détourne la jeunesse. Or, c'est pas corrompre au sens où l'on l'entendrait actuellement, Ugard, certaines pédérasties qui occuperaient, récupéreraient et exploiteraient la jeunesse. Non, cette corruption-là est plus grave, parce qu'elle n'est pas physique, elle est morale, elle détourne, d'après les accusateurs de Socrate, les jeunes, de tout l'intérêt et de tout le respect qu'ils devraient avoir pour leurs aînés. Or, il est vrai que toute une jeunesse a pu s'enthousiasmer un temps pour Socrate. Il lui a fait découvrir, au milieu de la troupe brillante des jeunes aristocrates qui l'entouraient, le rayonnement de son esprit. malgré l'ingratitude de sa personne physique. Toute une jeunesse était prête à dénoncer avec lui la fausse utilisation, vaine et fragile des valeurs admises. Une nouvelle génération élitiste s'est amusée aussi de Socrate, ce Socrate qui ne craint pas l'irrespect, qui avance que le bon sens populaire peut être insensé, qu'il faut se méfier de la foule, qu'il faut se méfier du bon peuple. Et la jeunesse aime avec lui jouer du paradoxe et aime s'exercer à l'ironie. Et toute une jeunesse l'a suivi. Socrate est recherché dans les banquets où on l'invite à la lueur des torches, là, parmi les couples, les descendants des Eupatrides, c'est-à-dire ces gens respectables, vulnérables, en cachette, ils se divertissent aux dépens des adultes. Cependant, alors qu'ils s'amusent, Socrate est sérieux, fidèle à lui-même. Tandis que ces jeunes interlocuteurs, prenant de l'âge, vont un jour se prendre au sérieux, illusion de refuser un instant le mal pour mieux y succomber. Et alors, abandonnant Socrate, ces jeunes deviennent de vrais adultes, c'est-à-dire des adultes selon les intérêts et les passions. Se détournant de lui, ces jeunes prennent Socrate pour un vain amuseur de la jeunesse, incapable de lui apprendre ce qui fait le succès des hommes dans la course à la puissance, à la richesse et aux honneurs. Les Platons, mais surtout les Critias et les Calliclès, tous ces gens-là qui entourent Socrate, venaient là pourquoi ? Alcibiade le premier, pour apprendre de Socrate l'art en quelque sorte de pouvoir ferrailler par la dialectique contre les autres, l'art de pouvoir embobiner les foules pour pouvoir se faire élire, l'art en quelque sorte d'avoir quelques secrets plus ou moins magiques qui puissent leur donner le pouvoir au sens des intérêts, le pouvoir au sens des habitudes et des passions des adultes. Parvenue, cette classe devenue moyenne et honorable se retrouve dans les discours de Calliclès. Et cette classe-là, c'est celle qui met Socrate en accusation. C'est-à-dire, les mêmes jeunes qui, 30 ans avant, faisaient cause commune avec lui, c'est-à-dire une certaine complicité, une certaine fronde de la jeunesse. Les mêmes, quand les temps ont changé, qu'il faut resserrer les rangs, disent c'est plus sérieux. Or, Socrate est resté sérieux. Et hors de la norme, Socrate devient normal. Et on lui dit, c'est plus du jeu. Effrayé par la décadence, la restauration attend une autre grandeur que celle de Socrate. Il y a le conservatisme qui cherche ses valeurs en arrière et sa religion dans les rites. Et puis il y a Socrate qui demande à la jeunesse de trouver à l'intérieur d'elle ses valeurs et à la religion de trouver en se dépassant soi-même. Et puis il y a Socrate qui leur dit finalement, rien n'est donné, tout est à chercher. Vous risquez d'avoir un sérieux problème si vous vous contentez de ce qui est visible, compréhensible, tangible par vous. Tant que l'on discute au Panthéon de savoir si tel dieu on le met à gauche ou à droite, s'il est l'oncle ou le neveu de tel autre dieu, s'il a fauté avec un mortel ou non, tout ceci ne remet pas en question la religion. Mais à partir du moment où Socrate dit aux jeunes, il y a au-delà de notre monde peut-être la véritable explication, eh bien ce monde qui se voulait clos sur lui-même, qui à l'intérieur de lui-même tolérait, même si le mot n'est pas exact, comprenez, et là le mot est tout à fait grec, comprenez les différences, les antagonismes divins, puis même les problèmes de société, tout ceci faisait un tout dont les stoïciens pourront dire ensuite qu'il est tel que satisfaisant et qu'il faut faire avec. Bah, Socrate dit non, ce n'est pas satisfaisant, on ne pourra pas faire avec. Et cette vie-là, ce n'est pas votre vie si vous voulez être vraiment héritier des ambitions et de l'idéal grec.
Une fois donc la lampe éteinte et les esclaves dehors, je jugeais qu'avec lui il ne fallait pas y aller par quatre chemins, mais déclarer librement ce que j'avais en tête. Je lui dis en le poussant, « Socrate, tu dors ?»« Mais non, » répondit-il. « Eh bien, sais-tu ce que j'ai en tête ?»« Quoi exactement ?» dit-il. J'ai en tête, repris-je, que toi, tu es le seul amant digne de moi, et apparemment tu hésites à me faire ta déclaration. Pour moi, voici mon sentiment. J'estime tout à fait stupide de te refuser une faveur, celle-ci ou toute autre, si tu avais besoin de mes biens ou de mes amis. Car je ne tiens à rien tant qu'à m'améliorer le plus possible. Sur cette voie, je pense que je n'ai pas d'aide plus autorisée que la tienne. Dans ces conditions, si je refusais mes faveurs à un homme comme toi, j'aurais bien plus de raisons de rougir devant les gens sensés que je n'en aurais en te les accordant devant le vulgaire et les imbéciles. et lui m'a écouté, puis a dit d'un air bien naïf, tout à fait dans son genre et dans son habitude, « Mon cher Alcibiade, il se pourrait de fait que tu ne sois pas un petit sot. Si vraiment tu touches juste dans ce que tu dis de moi, et que j'ai en moi un pouvoir capable de te rendre meilleur. Oui, tu dois voir en moi une inconcevable beauté, complètement différente de ta belle conformation à toi. Si sur cette découverte tu entreprends de faire partage avec moi et d'échanger beauté contre beauté, ce n'est pas un petit bénéfice que tu médites de gagner sur moi. Non. Au lieu d'opinion, tu entreprends d'acquérir la vérité du beau, et tu songes à troquer du bronze contre de l'or. Mais très cher, regarde-y de plus près, de peur de te méprendre sur ma nullité. »
Georges Kijman.
L'accusation d'avoir corrompu la jeunesse est une accusation évidemment extrêmement grave que, au XXe siècle, on réduirait à un comportement factuel. Hein. Je crois que le dernier qu'on ait accusé comme ça aussi clairement d'avoir corrompu la jeunesse et contribué à faire perdre la guerre, c'est peut-être André Gide. Il y avait d'ailleurs au moins dans la pratique quotidienne des points communs avec la pratique prêtée à Socrate. Mais là, l'accusation de corruption de la jeunesse est évidemment beaucoup plus vaste. Il s'agit de lui avoir donné des idées d'irrespect par rapport aux institutions et aux divinités. Alors là aussi, c'est un procès qui continue encore aujourd'hui, mais il n'a pas cette hauteur de vue. Quand M. Pasqua veut faire enlever des affiches sur les kiosques, c'est parce que ces affiches sont trop pleines ou trop consacrées à des organes sexuels étalés. Du temps de Socrate, Dieu merci, le débat était plus élevé. Il s'agissait de savoir si on acceptait l'institution publique comme la meilleure possible ou si au contraire on voulait l'améliorer. C'était un débat sur la cité, c'était pas un débat génital. Bon, eh bien, il reste que qui corrompt aujourd'hui la jeunesse, on ne le sait plus rien. On parlerait plus aujourd'hui de corruption de la jeunesse, on parlerait de son abêtissement, on parlerait de la culture qui fout le camp, on parlerait du pouvoir abêtissant des médias, c'est-à-dire que selon même qui sont chargés d'enseigner la jeunesse, contribuent à enlever tout esprit critique à cette jeunesse en essayant de mouler sa pensée dans des schémas préétablis.
Ogas en bolois, sansoi telontai car.
C'est-à-dire que le documentaire socratique devient fiction chez Diderot. Il en fait une fiction, il en fait une représentation.
Il en fait une représentation qui permet de donner consistance au modèle idéal. Parce que la postérité, qu'est-ce qu'elle est? Sinon quelque chose justement d'entrevu par inspiration. C'est la postérité qui devient la forme la plus probable du modèle ou du démon, de ce à quoi on veut accéder, avec quoi on veut coïncider peut-être, et qu'on peut faire venir par un mensonge au sens propre du terme, un songe de l'esprit. Et en cela, ça redevient purement socratique.
Rien ne me parut plus important que de vérifier l'oracle. Je continuai donc d'en chercher le sens et de converser avec ceux qui se piquaient de savoir quelque chose. Vous le dirai-je, Athénien, sans doute, puisque c'est la vérité. Tous mes essais me convainquirent que les plus fous étaient ceux qui passaient pour sages et que les plus sages étaient ceux qui en avaient le moins la réputation. Mais il faut que je vous fasse l'histoire de mes travaux et de toutes les peines que j'ai prises pour mettre la vérité de l'oracle hors d'atteinte.
Et il y a autre chose qui est très important, me semble-t-il, et qui rapproche Diderot de Socrate, c'est la méfiance vis-à-vis de l'écrit. Socrate n'a rien écrit. Et sa parole a donné lieu à toute l'œuvre de Platon, à tous les écrits de Platon. Mais dans le Phèdre, Socrate explique cette méfiance qu'il a vis-à-vis de l'écrit lorsqu'il rapporte la légende de la naissance de l'écriture, le dieu Thoth, qui est un égyptien qui invente l'écriture et qui soumet cette invention à Thamos, roi d'Égypte, enfin, ou à Amon, et qui croit qu'il a inventé quelque chose qui fera progresser l'esprit. Et Amon lui dit non, au contraire, c'est quelque chose qui empêchera le progrès de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui favorisera vraiment la mémoire, mais simplement la réminiscence, et qui fera que les gens se croiront sages ou croiront avoir compris, alors qu'ils n'auront rien compris, parce qu'il n'y a plus de contrôle. Tout le monde a accès à l'écrit, à la parole écrite, qui n'est donc plus une parole, et l'écrit permet de faire l'économie de ce qui est essentiel dans la connaissance, à savoir le passage par le maître spirituel, le malin génie qui vous met à l'épreuve. Et cela, Diderot le respecte, puisque s'il écrit, il ne fait pas imprimer son écrit. Donc, il évite, au fond, le sort de l'écrit pour sa parole. Il fait qu'effectivement, ce qu'il pense reste mobile comme une parole, et que pour comprendre cette parole, le lecteur soit contraint de réactualiser l'auteur absent, Diderot, qui alors devient le maître spirituel de son lecteur. En cela, oui, Diderot, instinctivement, intuitivement, justement, dans la mesure parfois où il semblait s'éloigner le plus de Socrate, a retrouvé, a représenté, réactualisé, incarné le personnage de Socrate. Finalement, par une page, par une écriture qui contredisait son action publique, politique, et par une action philosophique ou poétique qui contredisait ses écrits publics. Donc par un jeu systématique de la contradiction en lui-même.
Vous pensez que la disparition de Socrate est une mesure de salubrité publique ?
Exactement. Vous résumez en un mot, en une formule, ce que j'ai essayé de développer en vous donnant mes raisons, que c'est une mesure exactement de salubrité publique.
Mais en condamnant Socrate, est-ce que vous avez été capable de reconnaître votre époque dans laquelle vous êtes ?
La période dans laquelle nous sommes, c'est en effet une période dont il faut peut-être avoir conscience. Et personnellement, j'en suis triste qu'elle commence un peu à vaciller. Parce qu'enfin, un immense architecte dans la frise d'un Panathénée a montré ce que pouvait être cette procession où les jeunes filles, les jeunes vierges montaient le long de l'acropole pour honorer la déesse. Alors, ça, c'est la civilisation athénienne. Et je me demande si, à partir du moment où, du moins, il y a eu un Socrate, il n'y a pas déjà l'annonce d'un changement d'époque et d'un déclin. Et il se peut qu'en effet, plus tard, nous soyons considérés comme, disons le mot, des réactionnaires, que nous avons beaucoup trop attendu pour mettre Socrate à mort. Au lieu d'attendre toutes ces calamités qui viennent d'assaillir notre pays, nous aurions mieux fait d'agir beaucoup plus tôt. Peut-être qu'à ce moment-là, nous aurions fait œuvre, comme vous dites, de salubrité publique. Personnellement, je regrette cette époque sur laquelle nous ne savons pas grand-chose, parce que le secret était bien gardé, qu'était l'époque de Pythagore, où il n'y avait... Le philosophe ne décédait pas, ne descendait pas dans la rue. Socrate, c'est un plébéien, alors que Pythagore était un aristocrate, et c'est pas tout le monde qui avait le droit d'entrer dans les écoles. Il y avait des degrés d'initiation, et c'était seulement au terme de cette initiation que l'on pouvait directement entendre la parole du maître. C'était une sélection qui était pratiquée il n'y a pas si longtemps de cela, parce que peut-être que toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe qui, qu'il faut être capable de comprendre, et que peut-être parmi ceux qui écoutaient Socrate, certains, bien, le cas échéant, déformer sa propre pensée, ça c'est le risque. Puis vous savez ce qu'il en est, quand c'est l'oralité, qu'il n'y a pas un écrit qui fait foi. On aura dit, Socrate a dit telle chose, puis quelqu'un le répète, et puis un autre, et puis ça se déforme. Socrate du reste s'en est plein, disant, on a déformé ce que j'ai dit. Mais s'il avait écrit, eh bien, on s'en tiendrait au texte. Et dans ce cas-là, il y aurait quelque chose de plus indiscutable, de telle sorte que c'est Socrate lui-même qui, se refusant à écrire, a joué ce jeu pervers, peut-être bien de l'oralité, où il y a des déformations qui sont possibles. Mais n'empêche qu'au départ, il est responsable. Il a choisi de parler plutôt que d'écrire. Il a dû précisément, eh bien, en accepter les conséquences. Et somme toute, c'est vous maintenant, en dépit de cette question critique que vous m'avez posée, vous m'avez fourni un argument supplémentaire qui fait que je regrette encore moins que tout à l'heure d'avoir voté la peine de mort contre Socrate.
Védon, aianes has vestontimato, fos, to zeus da duchei, stilmnan alaxasau gar.
Ils vont le condamner. Ils vont le condamner à mort, à boire la ciguë, et Socrate, pendant un délai que la procédure lui a laissé d'un mois dans sa prison, va repousser toutes les tentations qu'ont pu avoir ses disciples de le faire évader. Je parle de tentation, je parle d'évasion. Il suffisait seulement de prendre la porte. À la fin du procès, librement, Socrate gagne sa prison. Librement, il y reste. Quel paradoxe, un prisonnier qui reste librement dans sa prison. Cela aurait arrangé tout le monde qui gagne d'autres cieux pour se faire oublier. Ses amis, soit dit en passant, ont peur de voir Socrate mourir. Ils savent que ça va mal finir. Ils savent que ça va mal finir. Surtout, ils ont peur d'autre chose. Ils se disent, nous, on est riches. Il suffit de payer très peu le geôlier et Socrate s'en va. Mais quand Socrate sera mort, on va nous dire, mais vous, vous étiez riche. Pourquoi n'avez-vous pas payé? Vous pouviez payer, Socrate, il ne pouvait pas payer pour acheter sa liberté. Pourquoi n'avez-vous pas payé? Voilà l'état d'esprit de ceux qui assistent aux derniers jours de Socrate. Et puis le jour fatal arrive, le bateau rentre de Délos, etc. Socrate boit la ciguë, tout le monde pleure. Il prend lui-même le soin d'aller se laver pour ne pas embêter une toilette mortelle ses amis. Et puis il regagne la salle, il s'allonge, il console le geôlier. Il essaie de consoler tout le monde, il est serein. D'ailleurs, ça me fait douter qu'il ait bu de la ciguë, au point où on le dit, parce que la ciguë est plutôt anesthésiant, et la ciguë a plutôt un effet qui empêcherait toute la sérénité dont Socrate fait manifestement preuve dans ses derniers instants. Et puis là, au dernier moment, il se redresse sur le coude et puis il regarde tout le monde. Il y a là tout le monde. Il y a tous les disciples. Il les interroge. Il est inquiet. Première inquiétude, je ne suis pas sûr que vous m'ayez tous compris. Si jamais vous avez pu me comprendre. D'abord, vous n'auriez pas peur comme ça. Et puis ensuite, au moins, la parole de la Grèce aurait encore un écho après moi. Mais enfin, il faut y aller. Et puis, deuxième inquiétude, il en manque un. Le seul qui avait compris qu'il y avait cette logique politique, sociale, naturelle, qui faisait que la dissidence se terminait par une exclusion, par un procès, et ce celui qui avait compris ça, cette logique politique avec Socrate, et c'était là le risque de devenir une logique morale, c'était Platon. Et Platon n'était pas là. Malade, paraît-il. Porté pâle, dirait-on. Déserteur. je me permets de dire. Parce que même si le disciple a la grippe, eh bien, on va, même sur un brancard, voir mourir Socrate, surtout quand, comme Platon, on sait à quelle profondeur et avec quelle acuité Socrate l'a marqué de son empreinte. Mais c'est précisément parce que Socrate sait que, ayant voulu mourir, Socrate était passé au-delà de Socrate, au-delà du simple ronronnement politique et des rapports de force ordinaires. Et ce message-là, Platon n'osait pas le regarder en face. Et Platon était absent.
Ô Athéniens, que vous vous êtes pressés de donner prise à ceux qui cherchent à vous calomnier. Ils diront que vous avez fait mourir Socrate qui était un homme sage. Je sais bien, il n'en est rien. Mais ceux qui vous en veulent, qui s'étudient à vous noircir, ne manqueront pas de le supposer et de le dire. J'allais mourir sans que vous vous en mêlassiez. Il ne fallait attendre qu'un instant. Considérez ma vieillesse, car à mon âge, on est bien loin de la vie et bien près de la mort. Ceci, messieurs, ne s'adresse point à vous tous, c'est seulement à ceux qui m'ont condamné. Ce qui suit n'est encore que pour eux. Vous croyez peut-être que j'ai succombé sous mes accusateurs parce que les discours capables de vous persuader m'ont manqué. Détrompez-vous, Athéniens. C'est l'argent et l'opinion qu'il me fut permis de tout dire et de tout faire pour être absous. Ce n'était point disette d'élocution, mais bien d'audace et d'impudence. C'est que je n'ai pu me résoudre à vous dire ce qu'il vous aurait plu d'entendre.
Écoutez, je crois que le procès a eu lieu dans les grandes lignes dessinées par Platon, et donc à l'époque, il s'agissait bien d'un document qui a sa valeur historique, mais aujourd'hui, il n'apparaît plus comme une parabole. Je dirais à la fois, hélas, et Dieu merci parce que on ne juge plus les philosophes, on ne les poursuit plus en les menaçant de la peine de mort. Je dirais hélas parce que c'est peut-être aussi un signe de la diminution du rôle de la pensée dans la vie politique contemporaine.
Je vous ai vu tout à l'heure découvrir le texte de Socrate.
Oui, moi je n'ai pas honte de le dire, je n'avais jamais lu l'Apologie de Socrate. Alors d'abord, la limpidité du texte est extraordinaire, sa force, son humour aussi sont considérables. Et puis, bien entendu, c'est le genre de plaidoirie que n'importe quel avocat aimerait prononcer. D'abord parce que c'est une plaidoirie pour soi-même, ce qui est très rare. En général, c'est la vie d'un autre que l'on expose, et là, Socrate joue la sienne, ce qui donne beaucoup plus de force encore à son propos. Ensuite, parce que loin des procès dits de rupture chers à mon confrère et ami Jacques Vergès, Socrate provoque... ou pratique plutôt une sorte de connivence meurtrière. Il ne cesse de dire à ses juges qu'il les comprend très bien, qu'ils ont parfaitement raison de le poursuivre, qu'à leur place, ils seraient dans le même état. Et évidemment, il les ridiculise franchement, mais en n'ayant jamais l'air de le faire. Et ce qui me paraît tout à fait touchant dans l'apologie, c'est finalement la manière dont elle se termine, puisque Socrate demande à ses juges, s'ils ont rencontré un jour ses fils à lui, Socrate, de leur tenir le discours que lui vient de tenir en vain aux juges. C'est-à-dire que d'abord, l'homme devrait d'abord savoir qu'il ne sait rien. Ensuite, que la chose la plus importante, c'est de pratiquer la vertu, et que rien n'est plus important que cela. Comment voulez-vous que ces juges ne se sentent pas eux-mêmes moralement condamnés quand Socrate leur dit « À la vérité, Tout ce que je demande à mes juges, le voici. Quand mes fils seront devenus grands, châtiez-les, vous, en leur infligeant exactement les mêmes souffrances que je vous infligerai. Si, à votre avis, ils font passer le souci de leur fortune ou de quoi que ce soit d'autre avant celui de la vertu. S'ils se croient quelque chose alors qu'ils ne sont rien, faites-leur reproche, le reproche que je vous faisais, de ne pas avoir souci de ce qu'il faut et, quand on ne vaut rien, de se croire quelque chose. Si vous faites cela, vous aurez fait envers moi des actes de justice, envers moi personnellement, comme envers mes enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de dire à des juges qui viennent de rendre la décision la plus inique qu'ils soient, puisqu'ils ont condamné Socrate pour ce qui en réalité est un précepte de morale intemporelle et qu'il leur conseille de faire valoir à l'égard de ses propres enfants? Bon, finalement, le philosophe s'avoue vaincu parce qu'il n'est jamais que le grand prêtre de la vérité et que, à l'évidence, les juges qui se recommandent des divinités, c'est-à-dire des institutions, ne sont eux que les porteurs du mensonge. Alors, aujourd'hui, en termes de parabole, le débat peut rester ouvert, sinon qu'il s'est évidemment terriblement compliqué. On peut espérer que, du temps de Socrate, il était relativement aisé de savoir où était le bien, où était le mal. Aujourd'hui, dans nos temps de grande technicité, il est beaucoup plus facile d'être lâche et, ayant recours, par exemple, aux experts sur tel ou tel problème, de ne pas savoir où est le bien, où est le mal, sur un problème comme le problème de la paix, par exemple. Il s'agit plus simplement d'établir la paix dans la cité, le bon ordre entre les citoyens. Il s'agit de préserver la vie et l'équilibre dans le monde. Et reconnaissons que c'est quand même un peu plus complexe que du temps de Socrate.
Edeuns skedenti otuen taperito etron psychomena. Kayen kalupsamenos, enike kaluptogar, eipen, hodet elotayon eftan xato. Okriton efe, toas klepio feilomen alectruona. Alla podote, kaime amelesete. Bon, on peut rêver sur cette. On n'a pas manqué de le faire, sur ces dernières paroles de Socrate. Cependant, il me semble que si on relit l'ensemble du Phédon, il est peut-être inutile de chercher ou de torturer les interprétations. C'est bien dans le Phédon que Socrate dit que la mort et la philosophie ont la même définition, c'est-à-dire que toutes deux opèrent la déliaison, l'analusis de l'âme, ou la séparation, apallagé, de l'âme et du corps. Et je crois que ce qu'il faut comprendre dans le Phédon, c'est que ce qui s'oppose, c'est en fait deux manières d'occuper le temps qui nous sépare de la mort, comme dit Platon, c'est-à-dire notre vie même. Soit en obéissant incessamment aux désirs, aux besoins du corps, et on n'aura jamais fini de s'en occuper, de le satisfaire, et quand on l'oublie, d'ailleurs, il se rappelle à notre bon souvenir, par la douleur, par le plaisir. Il y a donc ce temps du corps qui veut prendre, occuper tout le temps, et il y a un autre temps, que les Grecs appelaient la scolé, le loisir, le temps libre, qui serait le temps même de la pensée, de l'âme. Et le conflit est moins entre l'âme et le corps, qu'entre ces deux types de temps, le corps, c'est ce qui ne nous laisse jamais de loisir. Et l'âme a besoin de loisir pour penser. Délier l'âme du corps, c'est donc mourir aux appétits du corps, aux préoccupations, à l'afferment, dira bien plus tard Heidegger, à l'afferment que met en nous le corps au monde du souci, pour le dire en un mot. Et en ce sens, le coq à Esculape, eh bien, c'est cette offrande faite au Dieu guérisseur, puisque en mourant, effectivement, en mourant pour de bon, Socrate enfin aura tout le loisir. Il en est d'ailleurs pas du tout sûr, puisqu'on sait bien que le Phédon ne conclut pas, n'a pas démontré l'immortalité de l'âme. Il l'espère. Il espère que dans les demeures d'Hadès, alors enfin, il aura tout le temps, tout le loisir, toute la scolée, tout le temps libre pour faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire pour philosopher.
Le difficile, messieurs, si vous voulez bien y faire attention, n'est donc pas d'éviter la mort, mais la méchanceté, qui marche bien plus vite qu'elle. Elles se sont attachées chacune à ce qui leur convenait. la mort qui marche à pas lents à moi, que les années ont rendu tardif, et la méchanceté qui va vite à mes accusateurs, qui sont gens emportés et prompts. Vous m'avez condamné à la mort, et j'y vais. Diderot, apologie de Socrate, ou Platon, apologie de Socrate.
Les deux philosophes qui ont influencé Diderot, c'est d'une part Socrate et d'autre part Sénèque. Et justement, ce sont deux philosophes qui ont voulu agir sur leur siècle. L'un, Socrate, individuellement, en le critiquant, en le reprenant immédiatement, individuellement, et l'autre, alors en effet, comme la préfiguration de tous les philosophes du XVIIIe siècle qui veulent agir sur le despote en l'éclairant, Sénèque auprès, comme précepteur de Néron. L'agonie du sage que Sénèque a vécu peut-être plus que Socrate en acceptant de vivre dans le monde, parce que finalement, dit-il, c'est peut-être plus facile de renoncer au monde ou d'échapper au monde comme Socrate en acceptant finalement la mort. La mort de Socrate étant un suicide, disons, provoqué, une mort provoquée. Il provoque les Athéniens pour qu'ils le mettent à mort. Alors que Sénèque a renoncé à cette action exemplaire, a accepté de se compromettre, donc de mourir, dans l'espoir qu'on comprendra un jour son œuvre. Et l'œuvre de Diderot, de même, elle ne peut se comprendre que par cette dimension-là, à savoir la présence de la mort, qui est sa dimension ultime, dernière, alors que les autres, au siècle des Lumières, sont aveuglés, sont obnubilés.
Den apophainomai peri oudenos diatomeden echein sophon alithes oneidizusin. Το δε αιτιόν το ούτο ούτοδε. Μα γεύσταοι με ο Θεός αναγκάζει γενά δε απεκόλωσιν. Εμε είδε οούν αυτός μεν οού πανού τι σοφός οού δε τιμόι εστίν εουρέμα το ιτουόν γεγονός τες εμές ψυχές έγκονον, ο ίδε μόι συγκυκνωμένο το μεν πρόκουν θα νοτάει, εν ιόι μεν καί πανού αμάθεις.
Πάντες δε une vie, une œuvre. Socrate. Avec Georges Kishman, Roger Laporte, Jacques Mazel, Monique Dixot, Roger Leventer. Et Christine Brucher, Guido Licoudis, Pierre Santini, Marie-Christine Vallée, Olympia Tsipira, Alexandre Katsiouris, Philippe Leduc, Michel Bertin, Monique Pratt, Jean Dève, Jean-Claude Loiseau. Une vie, une œuvre. Socrate.
Une vie, une œuvre, Socrate par Jean Dève, une émission déjà diffusée en novembre 87. Demain, 25 siècles de pensée européenne, Platon ou le commencement par Jacques Munier.